Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve en direct de 17h à 18h pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités, Marie Cousin, d'abord membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle nous parlera de l'actualité de l'association, entre autres le non-respect du stop pub par nombre d'entreprises et l'enquête publique sur le RLPI, vous saurez ce que c'est tout à l'heure, de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'autres choses encore. Pascal Rodier sera également avec nous, secrétaire départemental du Secours populaire français pour les Yvelines. Il nous parlera de la campagne Pauvreté-Précarité lancée au niveau national par le Secours populaire français et du résultat d'une enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur la pauvreté en France. Dans Marmite fait son actu, vous retrouvez bien sûr vos chroniques préférées. Gaël, qui nous parlera de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, attrape. Dans Actu Yvelinoise, Caroline nous présentera SkyShare, un nouveau service d'autopartage à Saint-Quentin-en-Yvelines. La minute consommation de Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir, c'est à 17h45. Pierre nous parlera des détenteurs d'anciens permis de conduire qui se demandent si oui ou non ils doivent changer leur permis. Le flash d'actu local, c'est à 17h30. Allez, on ne change pas d'habitude, on commence cette émission en musique et on revient juste après avec Gaël pour parler cinéma, musique et à tout de suite.
I know I'm better off standing in the
vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, 17h, passé de 6 minutes. Nous sommes en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4. Allez, tout de suite, on écoute l'actualité du cinéma Le Grenier à Sel.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à Sel avec Gaël.
Bonjour Nouradine, bonjour tout le monde à la radio et les auditeurs. Je vais vous raconter un petit peu les films de la semaine. Je vais vous parler de ce qui nous attend, ce qui commence cette semaine. Donc on est mercredi, c'est le jour où on change les films. Nous avons cette semaine un film qui a été beaucoup demandé, des gens qui nous appellent, les gens en caisse qui nous demandent, le film Antoinette dans les Cévennes. On est donc sur une comédie française avec Laure Calani en tête d'affiche. C'est la première fois que cette actrice a le rôle principal d'un film. Ça fait quand même des années qu'on la voit dans des seconds rôles, dans la série 10% aussi, où elle a vraiment bien percé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette année, il n'y a pas eu le Festival de Cannes, évidemment, mais le festival a quand même mis son label sur certains films pour faire savoir que ces films avaient ce niveau d'exigence, ce niveau de qualité. Et donc, le film Antoinette dans les Cévennes fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Antoinette, elle attend les vacances, elle est prête à partir avec son amoureux qui finalement est son amant. Et lui, il est marié, il a des enfants. D'ailleurs, Antoinette est la maîtresse, l'institutrice de cet enfant. Et c'est alors que l'amant lui annonce que finalement il ne pourra pas partir avec elle pendant les vacances. Elle est un petit peu déçue, mais elle va quand même s'organiser pour aller le retrouver comme par hasard sur le chemin des Cévennes avec un âne. Donc elle va passer quelques jours de vacances sur les chemins des Cévennes avec cet âne et bien sûr la famille de son amant. C'est truculent, plein de scènes vraiment très drôles, des personnages aux couleurs. Et donc je vous conseille de découvrir Antoinette dans les Cévennes. Ça fait quelques semaines que vous entendez parler aussi de J'irai mourir dans les Carpates, le film d'Antoine de Maximi. Il était venu faire une avant-première, présenter son film début septembre. Le film est toujours à l'affiche chez nous et d'ailleurs un article a été écrit dans le journal de la ville et j'ai mis le lien sur notre site internet. Vous retrouvez ça, je donnerai tout à l'heure l'adresse du site internet. Nous avons d'autres films encore, puisque nous avons un documentaire qui s'appelle Adolescente, réalisé par Sébastien Lichitz, qui a suivi Emma et Anaïs de leurs 13 ans jusqu'à leur majorité. Donc il a passé 5 ans avec elles, avec toute l'aventure qui se passe dans la vie, dans la tête de jeunes adolescentes en France aujourd'hui. C'est une chronique de la jeunesse, c'est un portrait aussi, c'est vraiment intéressant, enrichissant. C'est deux personnages qui donnent vraiment envie de découvrir ce documentaire. Donc ça s'appelle Adolescente, je ne saurais que vous le conseiller. Cette semaine, n'oubliez pas aussi que nous avons Le Bonheur des Uns. Le Bonheur des Uns, c'est un documentaire, pas du tout, c'est une comédie française avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti et François Damien. Et ce qui se passe, c'est que ce sont deux couples. La femme d'un des couples, ils s'entendent très bien, ils sont tout à fait en harmonie, un peu grande gueule par-ci, un peu macho par-là quand même. Mais un jour, Léa, qui est la plus discrète du groupe, leur apprend qu'elle est en train d'écrire un roman. Et ce roman devient rapidement un best-seller. Alors, le quatuor, le trio en tout cas qui reste, ne se réjouit pas spécialement. Ils sont plutôt très jaloux et c'est un film plein de vacheries, une comédie pleine de vacheries et qu'on aime bien découvrir. Donc ça s'appelle Le Bonheur des Uns. Et pour finir, nous avons, comme la semaine dernière, on continue, les nouvelles aventures de Rita et Machin. C'est un film d'animation pour les plus petits, c'est leur 45 minutes. Il y avait déjà eu les aventures de Rita et Machin, maintenant il y a une nouvelle aventure. Et Rita, c'est une petite fille qui est très énergique et Machin, c'est son petit chien farceur. C'est très beau, c'est des dessins très enfantins, assez, on se croirait dans les livres pour enfants, et c'est très agréable à regarder. C'est d'ailleurs tiré du livre, Rita et machin. Donc pour les enfants à partir de 4 ans, c'est super chouette. Donc la rentrée des classes a commencé, maintenant c'est le temps pour les enfants de faire leur rentrée au cinéma. Voilà ce que je vous propose. Vous retrouvez tout ça, vous retrouvez toutes les informations sur les films et aussi le lien pour aller découvrir l'article écrit dans le magazine de la ville sur la rencontre de Jiré Mouret dans les Carpates. Donc voilà, tous ces films-là, vous les retrouvez sur notre site internet cinémagrenieracel.com. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci Gaël et à la semaine prochaine. Allez, sans transition, on accueille notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Marie Cousin est avec nous. Bonjour.
Bonjour Nouradine, bonjour l'équipe.
Donc membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors la semaine dernière, Marie, vous avez participé avec l'association, avec beaucoup d'associations d'ailleurs, et l'association notamment ALEC de Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, je dis une association, je suis même pas sûr que ce soit une association. C'est l'agence locale de l'énergie, donc c'est pas une association. Bon, c'est une parenthèse. À la soirée intermédiaire du défi zéro déchet pour 2020, vous avez notamment parlé de stop pub et d'actions à mener lorsque votre stop pub n'était pas respecté. Alors, on va essayer de faire un petit résumé pour les absents, pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à cette soirée. D'abord, est-ce qu'on pourrait expliquer aux peut-être quelques auditrices, auditeurs qui ne savent pas encore ce que c'est un stop pub ?
Alors, le stop pub, en fait, c'est tout autocollant ou mention que vous allez faire figurer sur votre boîte aux lettres disant que vous ne voulez pas recevoir de la publicité qu'on appelle non adressée, des flyers, des prospectus, tout ce type de choses, et qui, normalement, réglementairement parlant, devrait être, en tout cas, suffire à ce que vous ne soyez pas constamment abreuvé de publicité, que ce soit d'entreprises locales ou de centres commerciaux.
Alors, c'est un autocollant spécifique, voilà, il y a des règles à avoir dessus spécifiques, ou est-ce qu'on peut se le faire aussi soi-même ?
Alors, on peut se le faire soi-même. Très généralement, les collectivités, que ce soit les mairies ou les intercommunalités, vous en proposent. On en trouve aussi sur le site du ministère de la Transition écologique, téléchargeable, imprimable gratuitement. Mais un simple papier libre pourrait très sincèrement suffire pour ne pas recevoir de la publicité en marquant « pas de pub, je ne souhaite pas recevoir de la pub ». Quel que soit le message du moment qu'il clarifie votre volonté de ne pas recevoir de la publicité, c'est valable, réglementairement parlant.
On va essayer de savoir si c'est efficace et surtout de quel recours on dispose si malgré le stop pub, y a des entreprises qui mettent quand même des publicités dans notre boîte aux lettres. Alors il y a quelque chose d'intéressant, vous sur votre site internet, vous tapez Rapski sur un moteur de recherche, vous tomberez directement sur le site. Il y a 6 outils que vous mettez à disposition des Saint-Quentinoises, des Saint-Quentinois. On va commencer avec d'abord l'autocollant stop pub contre la publicité non adressée. Bon, ça, vous en avez plus ou moins parlé. Mais d'abord, la première question qu'on pourrait poser, est-ce que c'est efficace ?
Alors, c'est efficace, oui. D'après les récentes études qui ont été menées par l'ADEME ou d'autres organismes du type, ça diminue en moyenne le volume de la publicité de 93%. Comme les plus grosses sociétés à vous abreuver de publicité lorsque vous n'avez pas de stop pub, c'est les centres commerciaux, les grandes enseignes. Et généralement, c'est quand même des volumes assez importants de publicité. Ouais. On peut voir avec un stop pub tous ces éléments-là disparaître de vos boîtes aux lettres. Après, bien sûr, on a toujours des contrevenants à ce stop pub, et ça va être plus particulièrement des petites entreprises ou des franchises, des distributeurs qui se disent qu'en fait ça gêne personne de recevoir de la publicité, qui passent quand même la barrière de ce stop pub. Donc on peut en avoir encore quelques-unes dans sa poubelle, et généralement ça finit sans même qu'on les mise à la poubelle, et c'est le contribuable qui paye le traitement de ces déchets-là. Donc ça reste problématique. Et aujourd'hui, l'outil réglementaire au niveau national n'est pas très très précis pour pouvoir faire la guerre aux contrevenants du stop-up, puisque le seul article qu'il y a Dans la loi, c'est un article qui est assimilé d'ailleurs à tout ce qui va être dépôt sauvage, puisque c'est le fait de laisser, de déposer ou d'abandonner quelque chose dans l'espace public ou dans l'espace privé dès lors que le propriétaire ne lui a pas donné droit. Et donc du coup, il y a une amende qui peut s'appliquer de 450 € maximum pour vous laisser un stock public dans la boîte aux lettres. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc c'est très très compliqué de le faire respecter. Et c'est très compliqué aussi de sensibiliser les artisans, les commerçants, au fait que certains usagers ne souhaitent tout simplement pas recevoir ce type de publicité dans leur boîte aux lettres. Donc effectivement, nous on propose sur notre site internet, donc c'est antipub.org, vous avez une rubrique outils, boîte à outils sur comment faire pour ne pas recevoir de la publicité dans la boîte aux lettres. On donne tout un tas d'exemples. Donc nous déjà au niveau national, ce qu'on réclame, c'est avant tout de partir du principe que l'usager ne souhaite pas forcément recevoir de la publicité. Et donc du coup, on botte en touche par rapport au gouvernement, c'est que nous on aimerait un autocollant oui pub, c'est-à-dire partir du principe que les administrés ne veulent pas recevoir de la publicité, sauf s'ils en font mention.
Sauf s'ils en font mention, d'accord.
Voilà, comme ça on partirait à l'inverse sur quelque chose qui serait peut-être nettement plus respecté et qui permettrait un petit peu plus de liberté au niveau des usagers qui justement ne savent pas toujours où se reprocurer un stop pub, si vraiment il fonctionne, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le premier élément, c'est essayer de faire en sorte que les règles changent et qu'on ne soit plus sur un stop pub mais un oui pub, et de sensibiliser aussi les collectivités locales. On a eu il y a quelques années la surprise de voir que, par exemple, sur Montigny-Bretonneux, la mairie ne proposait pas en mairie des stop-pubs, alors que ça coûte rien du tout. D'ailleurs, c'est souvent les collectivités qui sont en contrat direct avec des prestataires de collecte qui le fournissent gratuitement, puisque c'est dans la boucle de l'esprit zéro déchet au niveau de la gestion des déchets sur un territoire. Et donc, du coup, il faut aussi sensibiliser les collectivités à faire le pas de proposer ces stop-pubs à ses administrés. Mmh. Et en tant qu'action individuelle ou collective, la première chose que j'invite à faire lorsque vous recevez malgré votre stop-pub de la publicité, c'est de contacter l'entreprise pour leur expliquer que vous ne souhaitez pas de nouveau recevoir ce type de flyer, ce prospectus dans votre boîte aux lettres parce que vous ne les lisez pas. Ils ont aussi des économies d'échelle à faire. S'ils respectent le statut, ça ferait moins d'impressions, moins de dépenses liées à leur marketing, et qu'à l'inverse, leur image de marque, elle est un petit peu entachée ils ne respectent pas la loi.
Qu'ils peuvent pas se défausser justement en disant c'est pas nous, c'est la personne qui distribue, si elle fait pas attention au stop pub, c'est pas de notre faute.
Il y a beaucoup de jurisprudence et c'est pour ça que les plaintes contre contrevenance au stop pub sont pas forcément suivies. On a eu beaucoup de sociétés qui ont été portées en faux là-dessus et qui ont dit mais quand vous êtes par exemple dans une résidence, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas votre voisin qui a pas de stop pub qui met les publicités dans votre boîte aux lettres pour s'en débarrasser plutôt que de se mettre dans la poubelle. Voilà, il y a eu tout un tas de recours juridiques après des plaintes de personnes qui n'ont pas forcément fonctionné, sauf une qui a été portée en 2018 par le collectif Zéro Déchet de Strasbourg, avec qui on a collaboré au niveau local, qui a porté plainte contre deux enseignes, Intermarché et Pizza Hut, puisque grâce au recensement d'un grand nombre de contravenances au stop pub viennent un groupe Facebook qui s'appelle Balance ta pub, ils ont cumulé les preuves pour montrer que Intermarché et Pizza Hut ne respectaient pas ça. Et pour la première fois, en 2019, il y a eu un rappel à la loi de ces deux enseignes. Donc forcément, comme l'amende n'a pas encore été appliquée, mais que si de nouveau un dépôt de plainte se serait fait envers ces deux enseignes, les amendes tomberaient, ça les a nettement dissuadés de contrevenir ensuite au stop pub. Et ce premier rappel historique à la loi, il a servi à ce que pendant les discussions sur la loi de l'économie circulaire, nos députés s'attachent à ce que, réglementairement parlant, il y ait une loi spécifique à la contravention au stop pub. Donc à partir du 1er janvier 2021, si l'échéancier législatif ne bouge pas d'ici là, il y aura désormais une loi qui permettra de verbaliser les contrevenants à hauteur de 1 500 euros et 3 000 euros si récidive, les contrevenants au stop pub. Donc on espère en tout cas qu'avec ce nouvel outil législatif, ça dissuade encore plus certains corps de profession à contrevenir à la loi, et on espère aussi qu'il y aura du suivi, du contrôle derrière pour déposer plainte à l'encontre de ces contrevenants-là.
Alors, on ne va pas détailler tous les outils, Marie Cousin, parce qu'il y en a plus, vous en avez 6, hein, exactement. Voilà, donc on renvoie les auditrices, les auditeurs vers votre site internet rapski.org. Voilà, vous verrez notamment comment s'inscrire sur la liste Robinson contre la publicité adressée, exercer son droit d'opposition, retourner à l'envoyeur. Bon, ça, c'est vraiment quand on en a marre, hein, qu'on a un peu avec les petites lettres, avec le T. Voilà, on peut renvoyer. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en lisant sur votre site internet, c'est que l'entreprise qui envoie le petit courrier, vous savez, le courrier avec le petit T, elle a déjà affranchi. Plus le courrier est lourd, et plus l'entreprise qui nous a envoyé le courrier va payer.
Et oui, parce que ce sont des lettres, en fait, prépayées par l'entreprise qui vous les envoie. Alors, généralement, c'est plutôt là, pour le coup, de la publicité adressée. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous avez coché une petite case disant que vous pouvez recevoir de la publicité. Mais si, puisque vous avez le droit d'exercer, justement, votre droit d'opposition et de vous retirer des listes de diffusion d'une association, d'une fondation, d'une entreprise, pour ne plus recevoir ça, mais qu'il continue quand même, effectivement, nous, on invite à utiliser ces enveloppes prépayées pour renvoyer les publicités que vous ne souhaitez pas.
Donc, retour à l'envoyeur. Bon, n'envoyez pas des cailloux ou des choses comme ça. Hein. Ça sert quand même. N'exagérons pas. Alors, le 15 septembre dernier, Marie Cousin, il y a une enquête publique sur le RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunale de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a été lancé. Donc, cette enquête publique, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots à quoi correspond ce RLPI, donc règlement local de publicité intercommunale de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les éditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas encore?
Alors, je vais essayer de faire court parce que,
c'est pas facile.
Remonte quand même à 2018, c'est-à-dire que il y a une loi en France qui a donné la possibilité aux communes de réglementer la publicité extérieure sur l'espace public via des RLP, donc des règlements locaux de publicité. C'est les communes qui en avaient la charge, et désormais cette loi est caduque et les collectivités et intercommunalités doivent donc mettre en place des RLPI, les mêmes règlements mais à l'échelle intercommunale. Donc ce sont en fait les règles qui vont permettre de contraindre, réduire, amoindrir la densité, la taille et le type de dispositifs publicitaires qu'on peut trouver sur l'espace public. Donc Saint-Quentin a engagé ses démarches dès 2018 avec une première phase de concertation en public avec les associations locales, avec la population, avec les entreprises, les commerçants, les artisans et également les afficheurs, puisque ce sont les premiers à être intéressés à ce que, justement, il y ait de la publicité dans l'espace public, au contraire de nos administrés qui souhaiteraient certainement moins de publicité. Vous le savez tous, hein, l'année 2020 était un petit peu perturbée, le Covid, les élections, ce qui fait que deux ans après, en fait, on arrive à la deuxième phase de ce règlement intercommunal sur la publicité, à savoir l'enquête publique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième jet de ce RLPI qui a été proposé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est soumis à la population depuis le 15 septembre et jusqu'au 15 octobre, midi pétante. Vous avez la possibilité de faire des retours, vous, administrés, usagers, habitants et habitantes de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour dire si vous êtes en accord ou pas avec ce règlement-là.
Et justement, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop compliqué à comprendre ce RLPI, là où est-ce que toutes les pièces du dossier, elles sont disponibles sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc sqy.fr. Mais est-ce que pour les auditrices et les auditeurs, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est facile de comprendre, ou est-ce qu'il faut être quand même un peu initié?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que déjà, pour trouver ce règlement local de publicité intercommunale, même nous qui nous intéressons de très près au sujet, on a mis longtemps à avoir l'information comme quoi l'enquête publique avait démarré et où se trouvait le RLPI. Il faut rechercher un petit peu dans les rubriques du site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc effectivement sqy.fr. Et on est un peu désolé que l'agglomération ne joue pas le jeu d'une vraie consultation de la population locale. À ma connaissance, j'ai vu un ou deux articles de journaux locaux en parler, la Gazette de Saint-Quentin, le site internet de Montigny, mais sinon il n'y a pas eu beaucoup de publicité justement envers ce RLPI, et c'est bien dommage parce que ce sont les règles qui vont fixer, en tout cas ce sont les règles du jeu qui vont être fixées pour les décennies à venir, puisque c'est un document qui va être annexé au plan local d'urbanisme, donc on risque d'en avoir pour quelques années. Après, au niveau de la lecture de ce texte, il est quand même relativement concis, c'est-à-dire que vous avez des zones sur le territoire qui ont été cadrées, où tel type de publicité va être interdit, ou tel autre vont être autorisés. Et pour le moment, nous, la lecture qu'on en a de ce texte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ne vont pas vraiment dans le sens de ce que réclamait la population locale, à savoir une interdiction ferme des écrans numériques publicitaires et une plage d'extinction de la publicité mobile urbain compris, qui est pour le moment inexistante. Donc on s'en désole un petit peu parce que même si d'apparence la population a été consultée dans un premier temps, 2 ans après, on ne tient pas connaissance en tout cas des avis que la population locale a donné à l'agglomération. Donc ça, c'est un petit peu dommageable à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on invite tout un chacun et tous les auditeurs de Marmite FM à s'intéresser quand même à cette question, et s'ils ont le moindre souci, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Sur les réseaux sociaux, on est présents, on pourra les accompagner pour leur expliquer comment faire.
Et justement, ils peuvent avoir, les auditrices ou les auditeurs peuvent avoir un impact par cette enquête publique. Ça peut faire changer des choses, notamment au niveau du numérique, comme vous venez de l'indiquer, on le sait, c'est un des enjeux de ce 21e siècle, c'est toute la communication numérique avec ces fameux tableaux numériques. Alors, du coup, est-ce qu'ils peuvent influer sur ce qui a déjà été proposé, sur ce qui est déjà écrit ?
Alors, complètement, parce que au-delà d'ailleurs des règles du jeu qui sont appliquées à ce RLPI, où il est nécessaire d'exprimer que vous souhaitez quand même qu'il soit un peu plus strict encore. Donc là, c'est vraiment un commissaire enquêteur qui, pendant ce mois d'enquête publique, va analyser les avis de chacun. Donc plus on sera nombreux pour dire que ça ne va pas assez loin, ce RLPI, qu'il manque des clauses, il n'y a pas un assez grand respect du cadre de vie et de l'environnement, plus nombreux on sera, plus on sera entendu et plus justement ça va motiver les élus à modifier ce texte pour qu'il soit plus strict. Et dans un second temps, quand bien même l'enquête publique donnera raison à cette version 2 du RLPI, ensuite, il y a tout un travail à faire de sensibilisation et d'interpellation de vos élus. Parce que le texte sera quelque chose lié à l'intercommunalité, mais les contrats du mobilier urbain ou de la publicité dans son ensemble sur l'espace public, c'est des contrats qu'ils ont directement les afficheurs avec vos mairies. Et donc du coup, vous pouvez aussi sensibiliser vos maires à refuser que la population, que la publicité numérique débarque dans vos villes ou sur d'autres types de dispositifs que vous n'avez pas à cœur de voir se développer dans la rue.
Merci beaucoup Marie Cousin. Je rappelle donc que vous êtes membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, vous étiez avec nous pour nous parler notamment de Stop Pub, qui est un enjeu important aussi, enjeu écologique également très important. Et puis de cette enquête donc qui a débuté le 15 septembre dernier sur le règlement local de publicité intercommunale de Saint-Quentin en Yvelines, que l'on vous invite donc, chères auditrices, chers auditeurs, voilà, à regarder d'un petit peu plus près. Merci beaucoup Marie.
Merci Noraline, à bientôt.
À bientôt. Il est 17h, passé de 30 minutes tout pile. Vous écoutez Marmite fait son actu sur le 88.4. Tout de suite, le Flash Actu. Allez, deux informations. On va commencer avec de la politique. D'abord, Philippe Benassaya est le nouveau député de la 11e circonscription des Yvelines. Il l'a emporté dimanche face à Sandrine Grand-Gambe. Donc, il emporte 57,63% des voix qui se sont exprimées, alors que Sandrine Grand-Gambe, pour Génération et Europe Écologie Les Verts, elle a 42,37% des suffrages exprimés. À noter l'augmentation de l'abstention. Elle était de 83% au premier tour et ce dimanche, l'abstention était de 84%. Si vous avez entendu un gros bruit d'explosion cet après-midi, enfin ce midi pour être plus précis, ne vous inquiétez pas, c'était juste un avion de chasse qui a passé le mur du son vers 12h, donc pour intercepter un avion de ligne qui ne répondait plus à la radio. Voilà, bon, en tout cas, ça, c'est l'information qui a été donnée notamment par la ministre des Armées, Florence Parly, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui ont appelé les pompiers, qui ont appelé pour essayer la préfecture, pour essayer de se renseigner un petit peu, qui étaient inquiets en pensant que c'était peut-être une explosion due à autre chose. Donc voilà, c'est un avion de chasse qui a passé le mur du son. Et pour information, pour la culture générale, le mur du son, c'est 1224 km/h, ou vous pouvez dire Mach 1 aussi si vous préférez. Il est 17h passé de 31 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM. Allez, tout de suite, un peu de musique. Oui, oui, un peu de musique. Et on revient juste après avec notre seconde invitée, Pascal Rodier, pour parler de l'actualité du Secours populaire français des Yvelines. A tout de suite.
Baramoro, quitte dans ça. Parce que il y a fouille et parce que il y en a des fouilles. C'est évidemment le grand frère Alpha Blondie sur Marmite FM. Ça va commencer à bouillir la marmite.
Coup de poing, tire, 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 tire. Neko Kisangana.
Ah, Alpha Blondie sur les ondes de Marmite FM 88.4. Et oui, comme tous les mercredis de 17h à 18h, nous sommes en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines dans votre émission Marmite fait son actu. Allez, tout de suite, on accueille le second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Pascal Rodier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départemental des Yvelines pour le Secours Populaire Français. Le Secours Populaire, justement, qui a lancé sa campagne Pauvreté-Précarité avec une multiplication des initiatives de solidarité pour venir en aide au plus grand nombre. Et à l'occasion du lancement de cette campagne, vous nous proposez de découvrir les résultats de votre enquête, une enquête Ipsos sur la perception de la pauvreté par les Françaises et les Français, avec une question phare: quel est l'impact de la crise sanitaire sur la précarité en France? Alors, avant d'en venir aux résultats de cette enquête, Pascal Rodier, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de cette campagne nationale Pauvreté-Précarité lancée par le Secours Populaire Français?
En fait, si vous voulez, nous, au niveau de l'association, on a 5 ou 6 campagnes de solidarité qui ponctuent notre année. Et la rentrée scolaire, juste après la journée des oubliés des vacances, c'est l'occasion pour nous de remettre l'éclairage sur la précarité vécue au quotidien par nos compatriotes.
Oui.
Et donc du coup, le Secours Populaire étant une association généraliste en termes de solidarité, c'est l'occasion de revenir sur nos actions d'aide alimentaire, mais aussi sur nos actions sur la santé, sur l'accès à la culture, aux loisirs. On revient un petit peu quand même aussi sur l'accès aux vacances. Et puis voilà, on essaye comme ça de couvrir le spectre large de ce que représente la précarité pour les Français, les qui en sont le plus touchés, quoi.
Vous avez quelques exemples de ce que vous pouvez proposer justement pendant cette campagne, ou est-ce qu'il y a des axes sur lesquels vous travaillez plus?
Alors en fait, là, nous, notre actualité, c'est qu'on va mettre en place un Solidaribus, une permanence d'accueil mobile.
D'accord.
Donc, on a obtenu le soutien via la direction départementale de la cohésion sociale et une fondation d'entreprise. On est en train de travailler en fait à la mise en place d'une permanence d'accueil mobile qui nous permettra sur le département des Yvelines de nous projeter par exemple près d'hôtels sociaux qui pourraient nous solliciter pour des dépannages pour les gens qui vivent en hôtel, mais aussi pour apporter la solidarité auprès de jeunes étudiants en hébergement ou en zone plus rurale sur le département des Yvelines. Et là, on est en phase un petit peu de diagnostic et de démarrage de l'activité.
D'accord. Donc ça, c'est un des exemples, des nombreux exemples de ce que vous avez fait.
Voilà, il y en a beaucoup. Oui.
Ouais. Alors venons-en justement, Pascal Rodier, à cette enquête nationale sur l'impact du Covid sur les plus précaires et les plus pauvres. Alors déjà, peut-être, est-ce qu'on pourrait définir à partir de quand on peut dire qu'une personne est pauvre en France? Ou est-ce que c'est un critère qui est plus global que seulement sur la France?
Alors les statistiques officielles, elles parlent de revenus médians.
D'accord.
Et du fait d'être 60% en dessous du revenu médian. Donc de mémoire, le revenu médian, il se situe aux environs de 1800 euros.
D'accord.
C'est le seuil duquel vous êtes sous. Et pour le seuil de pauvreté, en général, on le détermine aux environs de 60% de ce revenu médian. Donc ça nous le fixe aux environs de 1100 euros à peu près.
D'accord.
Donc à peu près au niveau du SMIC. Et justement, dans le sondage Ipsos, donc ça c'est la statistique officielle, on va dire, et dans le sondage Ipsos, il y a la perception qu'ont les gens du fait d'être en situation de précarité, et ce montant-là, en deçà duquel les gens disent qu'on est en situation de pauvreté et donc à devoir faire des arbitrages sur sa santé, sur certaines dépenses du quotidien, eh bien les Français le situent plutôt à 1200 euros.
Ah, d'accord, donc plus élevé que ce qui est donné notamment par les autorités, par exemple.
Ouais. Voilà.
Alors, avant la crise du coronavirus, Pascal Rodier, il y avait 9 millions de pauvres, hein, je pense, en France, si le chiffre est exact.
Alors, 9 300 000, oui.
Voilà, c'est très précis. Est-ce qu'on a un chiffre pour, justement, l'après-Covid?
Pas encore, parce que l'année n'est pas complètement écoulée. Il ne vous a pas échappé que la crise sanitaire n'est pas complètement finie non
tout
plus. Donc ces effets, on risque de les mesurer plutôt premier semestre 2021, si tout va bien. si ça dure pas encore trop longtemps. Donc en fait, on n'a pas vraiment, personne n'a vraiment de chiffres officiels. Je défie quiconque de pouvoir en sortir un. Ce qu'on mesure nous, c'est qu'il y a à peu près eu 45% d'augmentation de la fréquentation de nos permanences d'accueil. Donc il y aura probablement, malheureusement, une augmentation de ce chiffre, d'autant qu'on sait déjà que pour les professions peut-être les moins qualifiées ou les auto-entrepreneurs ou même maintenant certaines professions libérales, en fait, le bouleversement qu'a entraîné la crise sanitaire a fait qu'ils ont perdu tout ou partie des revenus. Il y a énormément de Français qui ont déclaré avoir connu une baisse de revenus pendant la crise Covid. Et donc, pour beaucoup de Français qui sont justement un petit peu sur le fil du rasoir, malheureusement, il y en a certains qui vont basculer. Mmh. C'est à craindre. Sans compter les endettements qui vont produire des effets dans quelques mois encore. Mmh.
Parce qu'on a beaucoup parlé pendant toute cette période de confinement, non seulement de télétravail d'une part, mais également de chômage partiel, oui. Avec des indemnités parfois qui pouvaient être versées. Voilà, malgré tout, tout ce qui a pu être mis en place, sans juger si c'était suffisant ou pas suffisant, c'est pas la question, mais malgré ça, en tout cas, il y a beaucoup de gens, vous le voyez, qui à cause du coronavirus, en tout cas, sont venus soit... frapper à votre porte pour du colis alimentaire ou pour d'autres choses.
Disons que les premiers effets, on les a mesurés sur l'alimentaire, effectivement. Ouais. Donc ça a touché, on l'a vu très fortement pour les gens qui étaient hébergés en hôtels sociaux, mais on l'a vu aussi pour les étudiants. C'est-à-dire que la précarité étudiante est peut-être moins visible du grand public. Ouais. Et là, il y a à peu près 20% des étudiants qui sont hébergés en CROUS, qui ont été bloqués ou confinés dans les lieux d'hébergement et qui n'avaient pas ou très peu de moyens de subvenir à leurs besoins. Et des étudiants ont dû pousser la porte des associations comme la nôtre pour pouvoir manger concrètement. Donc sans compter que quand vous êtes étudiant et puis que vous avez un job d'appoint, si vous voulez, pour financer vos études, tous ces petits jobs-là, ils ont sauté. Donc là, il y a y compris pour ceux qui commencent l'année universitaire en ce moment-là, il y a des grosses inquiétudes en région parisienne.
Mmh. Oui, c'est vrai que...
partout sur le territoire.
C'est peut-être la spécificité de cette crise, c'est que beaucoup de profils, peut-être que vous ne voyez pas habituellement venir chez vous. On a parlé dans le document que vous nous avez envoyé là pour la presse, notamment des commerçants, des intermittents du spectacle, les intérimaires, les saisonniers. Voilà, il y a beaucoup
les retraités
également. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que vous avez vu venir avec cette crise.
Oui, de manière assez aiguë. Et on a aussi, j'insiste aussi pour les gens qui sont hébergés en hôtel.
Oui.
Ou alors là, il y a eu pendant la crise. Une grosse pression faite aux assos, d'autant qu'on n'était quand même pas tous ouverts ou complètement en capacité d'intervenir. Et donc du coup, pour ceux qui étaient en capacité de rester ouverts, il y a eu une pression supplémentaire du fait que tout le monde n'avait pas forcément la capacité de rester ouvert. Mmh. Voilà.
Alors vous me l'avez déjà dit tout à l'heure, Pascal Rodier, il n'y a pas de chiffres, l'année n'est pas encore terminée,
pas
donc
encore,
c'est difficile. Mmh. Mais est-ce qu'on peut faire aussi un bilan au niveau des Yvelines peut-être? Voilà, est-ce que c'est un territoire qui est particulièrement touché? Alors là, nous on est surtout sur Saint-Quentin-en-Yvelines, voilà, il y a peut-être Trappes ou La Verrière, d'autres villes encore.
Trappes, La Verrière, Coignières, dans le nord des Yvelines, il y a des villes comme Chanteloup-les-Vignes, Sartrouville, toutes les villes, en fait, si vous voulez, qui comportent des quartiers populaires en grand nombre, tout cela risque de malheureusement souffrir un peu. Alors il y a beaucoup de solidarité aussi qui se manifeste dans les quartiers populaires. Donc peut-être que les gens vont réussir à se serrer les coudes pour faire face à l'orage, mais c'est vrai que ça chahute quand même un peu, pour prolonger l'image. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde, là.
Pour terminer, Pascal Rodier, qu'est-ce que le Secours populaire français des Yvelines a fait pour tenter de répondre à une partie de cette problématique. Voilà, parce que vous êtes retrouvé du coup avec tous les profils qu'on a cités tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément. L'afflux a été plus important, oui. Notamment sur l'alimentaire. Voilà, comment vous avez réussi à gérer déjà la première partie, c'est-à-dire la crise, hein, quand la crise était vraiment aiguë. Et puis là, comment vous vous organisez, voilà, est-ce que vous cherchez plus de bénévoles encore? Est-ce qu'il faut encore plus aller, malgré les conditions sanitaires, faire de ramasser des colis alimentaires, trouver des partenaires? Voilà, comment vous faites?
Voilà, alors déjà, on a quand même plus de 400 personnes qui se sont proposées pendant la crise sanitaire pour rejoindre nos troupes. Donc ça nous a permis quand même de faire face à la complexité de la situation, puisque dans nos équipes bénévoles, on avait aussi des personnes en âge un petit peu avancé qui pouvaient craindre de se mobiliser sur les permanences d'accueil. Et donc il nous a fallu régler ces aspects-là, intégrer des nouveaux bénévoles tout en maintenant un niveau de solidarité important. Il y a eu aussi beaucoup de solidarité d'entreprises qui nous ont fait des dons de produits. Il a fallu qu'on fasse des achats pendant la crise du Covid. Et en fait, on a distribué de mémoire dans les 130 000 repas sur la période de confinement, ce qui correspond à peu près à 20% en 2 mois, on a fait 20% d'une activité annuelle. Ouais. Voilà. Donc ça représente une grosse charge dans les 60 tonnes de denrées qui ont été redistribuées. Donc pour nous, c'est important par rapport à notre capacité d'infrastructure. Et sur Trappe, on m'avait interrogé, je crois, à l'époque, on a participé à une petite coordination informelle à plusieurs associations pour améliorer notre réactivité. Donc c'est ce qui a permis qu'on puisse collectivement limiter les dégâts. Maintenant, c'est certain qu'on est en train de voir comment s'équiper humainement, financièrement et logistiquement pour faire face, puisque les besoins ils vont continuer de se manifester. Et quand on est malheureusement un petit peu, c'est un peu le paradoxe, quand on gagne en notoriété, on doit faire face à davantage de demandes. Les gens viennent plus spontanément vers nous et donc ça accroît notre activité. Donc on va se mobiliser, on est une association de solidarité, donc voilà. Maintenant, je dois dire que quand même sur le département, il y a eu une bonne réponse en bénévole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mesuré après le confinement qu'il y a une partie des gens qui nous ont connus en bénévole pendant le Covid qui restent avec nous. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas être complètement repoussant. et qui nous ont aidés notamment pour les premières collectes de fournitures scolaires qu'on a fait pour la rentrée. Et puis qui, je pense, continueront de nous aider dans le cadre des collectes alimentaires qu'on va continuer de faire, parce qu'il va falloir nécessairement y revenir par ce biais-là, parce qu'on ne pourra pas, lever les fonds nécessaires pour acheter l'équivalent de ce qu'on collecte, quoi. Mmh. Annuellement, ce que l'on collecte, ça représente, ou que l'on ramasse auprès des entreprises, ça représente largement plus de 250 000 euros, ce qui est une somme conséquente. Et on ne pourra pas y pallier par la générosité des donateurs. Donc il faudra nécessairement collecter. Voilà.
Une petite question subsidiaire, j'ai oublié de vous poser la question. C'est pour celles et ceux qui seraient intéressés justement pour voir les résultats complets de ce baromètre, là, de cette enquête Ipsos, oui, autour de la pauvreté, la précarité et de l'impact du Covid, justement, c'est très intéressant, sur la pauvreté. Comment ils peuvent faire?
Alors ils peuvent aller sur le site internet du Secours Populaire, vous avez tous les résultats de l'enquête qui sont développés et déroulés. Donc vous faites www.secourspopulaire.fr et si vous voulez faire un don dans les Yvelines, à la fin vous mettez 78 et ça arrivera chez nous.
Donc voilà, secourspopulaire.fr/78 pour aller directement, voilà, sur la Fédération des Yvelines.
Voilà. Merci. Et les résultats de l'enquête sont publiés intégralement.
Voilà. Merci en tout cas beaucoup, Pascal Rodier, secrétaire départemental du Secours Populaire Français pour les Yvelines, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.
Merci.
17h passé de 50 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, comme tous les mercredis de 17h à 18h, on est en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Je rappelle qu'il y a une petite rediffusion le vendredi de 17h à 18h et pour le moment, hein, on a réussi à caler aussi une petite rediffusion le samedi de 12h à 13h. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, hein, j'en profite pour les fans de reggae, raga et dancehall, l'émission qui est traditionnellement été diffusée en direct de 12h à 13h, donc Kaoulé Vibes, eh bien, elle est décalée au dimanche de 12h à 13h, toujours en direct et toujours avec Lord Dom. Donc voilà, n'oubliez pas maintenant le rendez-vous, c'est plus le samedi de 12h à 13h, mais le dimanche de 12h à 13h. Allez, on passe tout de suite à la Minute Conso de Pierre Joannet.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Vous avez toujours votre ancien permis sous forme cartonnée ? Il va falloir le changer contre sa nouvelle version, mise en place en 2013. Mais vous avez le temps, pas de panique. Depuis 2013, le permis de conduire prend la forme d'une petite carte plastifiée de la taille d'une carte de crédit, commune à tous les États membres de l'Union européenne. Si vous avez eu votre permis avant 2013, vous pouvez tout à fait demander à le changer pour le nouveau format. Pas d'urgence en revanche. La date limite étant fixée au 19 janvier 2033. À partir de cette date, il n'y aura plus aucun permis rose en circulation. En attendant, vous pouvez aussi bien le conserver. Il est tout à fait valable. Seule exception qui vous oblige de demander son remplacement est sa détérioration, ou en cas de perte ou de vol. Dans ce cas, il vous faut remplir votre demande en ligne sur le site de service public et vous munir d'un certain nombre de justificatifs. Il vous en coûtera 25 euros. Si l'ancien permis rose était valable à vie, ce n'est pas le cas du nouveau. Il devra être renouvelé tous les 15 ans. Là encore, on a le temps de voir venir. Le permis de conduire est une pièce d'identité officielle, car il est délivré par l'État français. Il peut donc permettre de justifier son identité, à condition qu'il ne soit pas trop abîmé et qu'on puisse vous identifier. Attention, donc, si vous possédez un vieux permis cartonné, tout abîmé et sur lequel vous avez une photo de vos 20 ans. En revanche, le permis de conduire n'a pas la même valeur que la carte nationale d'identité ou le passeport, qui permettent, eux, de justifier à la fois de votre identité et de votre nationalité. Enfin, sachez que dans vos démarches, toutes les administrations ou organismes privés n'acceptent pas toujours cette pièce pour justifier de l'identité. Sauf exception, et au bon vouloir d'une compagnie aérienne, sur un vol intérieur seulement, le permis de conduire n'est pas valable pour voyager en avion. Alors méfiez-vous. Et si vous louez une voiture en France ou en Europe, votre permis français est valable. Ailleurs, il peut suffire pour conduire temporairement dans certains pays, mais pas toujours. Renseignez-vous suffisamment longtemps avant votre départ. Certains pays demandent en effet à ce que votre permis français soit accompagné d'un permis de conduire international, un document qu'il faut faire plusieurs semaines avant le départ pour être sûr de le recevoir à temps.
passées de 54 minutes. Tout de suite, on accueille Caroline pour nous parler de SkyShare.
Oui, bonjour Marvin, bonjour Renan. Alors, ce mois-ci, le 17 septembre 2020, donc, a été lancé SkyShare. Alors, SkyShare, donc, je l'ai dit, a été lancé le 17 septembre dernier par le club donc, Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, c'est un service qui permet à plusieurs entreprises proches géographiquement de partager une flotte de véhicules propres. Donc pour le moment, les trois entreprises qui participent à ce projet expérimental sont la Banque Populaire Val-de-France, le distributeur d'électricité Enedis et Léonie, fabricant pour les constructeurs automobiles. Ces trois entreprises siègent au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elles sont situées à proximité de la gare. Elles vont donc pouvoir partager entre elles une flotte de véhicules. Donc, je l'ai dit, c'est une première dans les Yvelines et cela a été rendu possible grâce à l'appui de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également les villes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Donc, concrètement, comment cela se présente? Donc, la flotte de véhicules d'entreprise commune et partagée, elle se compose de 9 véhicules électriques et hybrides, donc facilement identifiables avec le logo SkyShare qui est apposé. Et elles sont disponibles auprès de salariés de ces trois entreprises après réservation sur une plateforme dédiée. Donc les 9 véhicules en question, donc ce sont 5 Nissan Leaf électriques qui sont situés au niveau de l'avenue du centre à Guyancourt et 4 Toyota Corolla hybrides qui sont situés rue Isaac Newton à Montigny-le-Bretonneux. Les raisons de cette initiative, donc, c'est que l'autopartage inter-entreprise est une solution innovante pour participer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Et oui, en mutualisant les véhicules grâce à l'autopartage et en choisissant des voitures plus propres, les entreprises, donc à l'initiative du projet, ont souhaité contribuer à la transition énergétique. Donc, je vais citer Xavier Delaporte, l'animateur, un animateur du club Climat Énergie. Donc, le but de SkyShare, ce n'est pas de remplacer, mais de compléter les systèmes de mobilité existants au sein des entreprises. Cela leur permet d'éviter d'investir dans de nouveaux véhicules. Et donc, SkyShare a pour objectif de favoriser la réduction des flottes automobiles des entreprises et leur conversion à l'électrique et à l'hybride, concourant ainsi à la baisse de la consommation d'énergie et des émissions de polluants. Donc SkyShare, je l'ai dit, c'est possible grâce à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également de Montigny, Le Bretonneux et Lunancourt, qui mettent à disposition des places de stationnement pour accueillir donc ces véhicules électriques et hybrides. Donc il y aura 7 places de stationnement au niveau de l'avenue du centre, à Glencourt, et 5 places au niveau de la rue Isaac Newton pour la commune de Montigny-le-Bretonneux. Donc, autopartage inter-entreprise, participer à la transition énergétique, à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Il faut aussi ajouter que selon une étude de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque voiture d'autopartage remplace 10 voitures individuelles et libère 9 places de stationnement. Donc c'est vraiment une solution inédite qui est proposée au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus globalement du département. Et cette initiative pour l'instant est limité à 3 entreprises, pourra s'étendre sur d'autres entreprises du territoire au fur et à mesure de la perception qui va être faite de cette utilisation de ce service quasiment inédit. Et donc, je vais terminer ma chronique. J'aimerais la terminer sur une citation. Au travers de SkyShare, donc le club Climat entend permettre aux entreprises de réduire leur parc automobile, mais c'est aussi un biais pour les salariés, puisque il serait souhaité que l'utilisation de ces flottes de véhicules puisse s'étendre à des usages privés. Donc les salariés pourront utiliser à terme ces véhicules hybrides pour des trajets personnels. Donc c'est une bonne initiative, donc affaire à suivre.
Voilà, effectivement, Caroline, affaire à suivre. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Marmite fait son actu. C'est déjà terminé. Je vous rappelle que nous sommes rediffusés le vendredi de 12h à... De 12h, n'importe quoi. Le vendredi de 17h à 18h. Donc le vendredi de 17h à 18h. Et le samedi de 12h à 13h. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, le coronavirus circule toujours. Donc, on respecte les gestes barrières et on se retrouve la semaine prochaine de 17h à 18h. Salut tout le monde.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.